6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Après la Chine, l'Australie, le Kenya, après Dubaï également, c'est au tour du Brésil d'affronter les ravages des pluies diluviennes au sud de son territoire. En effet, depuis le début du mois de mai, le Brésil souffre de violentes inondations, créant des dégâts encore à ce jour inestimables. Selon la marine brésilienne, cette situation serait comparable à une situation de guerre. Pour l'Amérique latine, l'année 2023 a été une année record, 67 épisodes de catastrophes météorologiques, hydrologiques, et climatiques ont été signalés dans la région. Est-ce finalement la conséquence des années de politique climato-sceptique dans le pays? Pour en parler, je reçois ce matin Catherine Aubertin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de l'environnement, vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement affecté au Muséum d'histoire naturelle. Et peut-être pour commencer, un bilan, peut-on faire un bilan aujourd'hui sur ces inondations qui frappent dramatiquement le sud du Brésil?
C'est toujours un bilan provisoire, mais actuellement on en était à plus de 100 morts, environ 1 million de personnes touchées, des blessés et déjà 200 000 personnes qu'on a dû déplacer.
D'un point de vue strictement scientifique, on parlera bien sûr de politique publique et de politique tout court même après, mais d'un point de vue strictement scientifique, qu'est-ce qui explique ces inondations aujourd'hui ?
Bon, d'une façon plus générale, c'est bien sûr le réchauffement climatique. À partir du moment où il y a un réchauffement des océans, il y a plus d'humidité dans l'air et bien sûr il va y avoir des pluies qui vont se faire. C'est mécanique, hein, une élévation de la température dans les océans. Vous avez un surcroît d'évaporation, une augmentation du taux d'humidité dans l'atmosphère, et bien sûr, ça va se terminer en pluie. C'est ce qui s'est passé. On impute aussi beaucoup de choses à El Niño, c'est-à-dire ce phénomène naturel, hein. Ce sont les relations entre les océans et l'atmosphère, mais c'est un phénomène plus ou moins régulier qui arrive, et il est exacerbé par le réchauffement climatique.
On sait que El Niño ne se poursuivra pas éternellement, qu'El Niña devrait en partie le remplacer. Est-ce que cela devrait avoir des effets, notamment sur ces pluies diluviennes ?
À court terme, El Niño, je pense qu'on va encore avoir ses effets encore cette année. El Niña, qui est le phénomène, disons inverse, devrait abaisser un peu les températures. Mais on aura aussi, avec El Niña, il y a d'autres types de dommages qui peuvent apparaître. Pour moi, je trouve que il y a effectivement des crises climatiques, mais il faut parler, je pense que c'est d'abord aussi une crise politique, hein, qui est...
Alors justement, oui. Catherine Aubertin, parlons de la dimension politique de ces crises météorologiques. En quoi est-ce que surtout le gouvernement brésilien avait anticipé ces pluies diluviennes ?
Non, bien sûr, c'était assez difficile à anticiper, mais politiquement, ça pouvait être anticipé. Ce qui se passe, c'est que c'est même caricatural, c'est-à-dire qu'au moment même où il y a ces grandes inondations, au Congrès brésilien, on est en train de discuter de politique, on continue à détricoter les lois environnementales, c'est-à-dire que, par exemple, l'Orient Grande du Sud, c'est un écosystème de pampa, hein, ce sont ces grandes grandes prairies naturelles. Actuellement, il y a un projet de loi qui dit qu'on ne va plus protéger la végétation non forestière, par exemple, la protection de ces prairies naturelles. Alors c'est terrible, ça veut dire que c'est 48 millions d'hectares de prairies qui vont plus être du tout protégées. Et que c'est aussi bien dans le Rio Grande du Sud, enfin dans la Pampa, que dans le Pantanal, que dans le Cerrado, et même en Amazonie. Donc c'est-à-dire qu'actuellement, on a toujours des politiques qui prennent des mesures qui ne peuvent qu'amplifier les phénomènes climatiques.
Est-ce que l'arrivée au pouvoir de Lula dans ce domaine a transformé un tant soit peu les choses, ou au fond, comme vous le laissez entendre, il y a une continuité forte avec son prédécesseur Bolsonaro ?
C'est-à-dire que le président Lula n'a pas la majorité à la Chambre, donc il est un peu soumis. Les deux tiers vraiment des parlements sont acquis à la cause de l'agronégoce, enfin des grandes entreprises. En revanche, il a fait beaucoup pour recriminaliser tout ce qui pouvait être déforestation en Amazonie. Hein. Et cette année, là, on vient d'avoir les résultats. Il y a eu vraiment une chute de la déforestation en Amazonie. De 21% par exemple, hein, entre août 22 et juillet 23. Mais dans le même temps, par exemple, actuellement, ça brûle. C'est à l'Amazonie, brûle. Et les feux sont nettement supérieurs à ceux de l'année dernière. Et ça, on peut imputer ça à la sécheresse.
Si on revient un instant, Catherine Aubertin, sur ces inondations dans le sud du pays, dans le sud du Brésil, quelles sont concrètement pour les populations les conséquences économiques et même alimentaires ?
Ah ben c'est bien sûr très grave parce que ce sont bien sûr toujours les populations les plus fragiles qui sont les plus atteintes et en particulier toutes les familles, ce qu'on appelle les quilombos, là, les afro-descendants. Il y a aussi beaucoup de familles de gitans et des familles qui sont isolées, hein, donc elles n'ont pas accès à l'eau propre, elles n'ont pas accès à l'énergie, elles n'ont pas accès à la nourriture. Il y a vraiment des problèmes. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a vraiment au Brésil un grand mouvement de solidarité. Le président Lula s'est déjà déplacé avec sa femme qui a recueilli un petit chien récupéré par... vous savez, il y a beaucoup d'efforts pour récupérer tous les animaux qui sont sous l'eau, en fait. Donc, il y a vraiment eu beaucoup d'efforts. Dans les aéroports, vous avez des caisses enfin pour organiser des collectes de vêtements, de nourriture. Il y a vraiment, c'est très très médiatisé au Brésil et ça c'est important. Moyennant quoi, déjà le Rio Grande du Sud avait déjà été sous l'eau récemment, hein, cette année je crois que c'est la troisième ou quatrième inondation qui a lieu.
Est-ce qu'on observe également aussi face à ce drame, face à ces inondations, une solidarité politique, un unanimisme politique autour de cette question ?
Oui, bien sûr, tout le monde est navré, bien sûr, tout le monde se reporte la responsabilité, mais la responsabilité, c'est vraiment le mode de développement agro-industriel du Brésil.
Hein. Ce qu'il faut noter également, ce sont les répercussions peut-être mondiales de ces inondations. Le président Lula est allé à Pékin l'année dernière, il faut le rappeler, il a signé d'énormes partenariats agricoles avec la Chine. Est-ce que ces partenariats aujourd'hui sont fragilisés puisqu'on imagine que ces inondations affectent très très largement les récoltes de l'année ?
Oh, probablement, mais vous savez, la Chine aussi a souffert énormément d'inondations récemment. Enfin, on s'intéresse beaucoup maintenant au Rio Grande do Sul, mais c'est comme si on oubliait tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient récemment. Les États arabes unis sous l'eau, c'est général. Hein, ce sont des phénomènes qui vont s'accentuer. Dans le cas précis des relations entre le Rio Grande do Sul, c'est surtout du soja et puis et du riz. Bien sûr, les pertes vont être très très importantes, mais il faut voir aussi les pertes en termes d'infrastructures, de pollution, parce que toutes les agrotoxiques, c'est-à-dire tout ce qu'on met comme phytosanitaire, on dit en français, et en agrotoxique, on dit au Brésil, vont se retrouver aussi, vont polluer absolument tous les écosystèmes. C'est terrible. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a une conjonction entre cette crise climatique et la destruction des services écosystémiques de régulation. C'est-à-dire que les écosystèmes ne sont plus capables de réguler les pluies, de capter le carbone du fait de cette agro-industrie vraiment très très néfaste pour ces écosystèmes.
Il y a aujourd'hui, Catherine Aubertin, un forum des Nations Unies sur les forêts. Quel est l'enjeu de ce forum et quelle est la position du Brésil dans ces discussions ?
Alors, cette discussion a lieu effectivement actuellement. C'est un forum sous les auspices des Nations Unies. Le Brésil a été très actif, le président Lula a été très actif pour essayer de rassembler les trois grands bassins forestiers du monde, hein, c'est-à-dire le bassin du Congo, le bassin de l'Amazone et le bassin du Mékong, donc de faire une espèce de coalition des grands pays forestiers pour pouvoir agir lors des COP climat, par exemple. Vous savez que la COP climat qui aura lieu en 2025 aura lieu à Belém, aura lieu au Brésil. Et là, je pense qu'on va parler des forêts comme infrastructure de lutte contre le changement climatique. Ce qui se passe actuellement au forum, ce que j'ai pu en suivre, c'est surtout des disputes sur chaque mot. Qu'est-ce que c'est que la bioéconomie? Bon, pour l'instant, il en sort pas grand-chose. On verra ce qui en sortira. Mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les forêts sont vraiment très importantes pour limiter les effets du réchauffement climatique.
Est-ce que ça...
Elles souffrent beaucoup, bah, du fait de la sécheresse, pas uniquement de la déforestation.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça a du sens politiquement et même scientifiquement de rassembler, de faire front commun pour l'ensemble de ces trois grands bassins forestiers, l'Amazone, le bassin du Congo et le bassin forestier en Asie?
Ah bah c'est politiquement c'est très important parce que c'est une demande aussi de ces pays de bénéficier de la manne qui va vers la protection des forêts. Vous savez que normalement la biodiversité, il faudrait 700 milliards de dollars par an pour pouvoir répondre aux défis, et dans la dernière COP biodiversité 200 milliards devaient être rassemblés, et évidemment ces grands pays vont demander leur part. L'argument est simple, c'est nous gardons 80% de la biodiversité, donc il nous faut 80% des fonds destinés à sa protection. Donc c'est effectivement un argument politique très fort.
Si l'on revient un instant au Brésil, on a parlé de sécheresse, on a parlé d'inondations, on a parlé également de vagues de chaleur qui frappent sans cesse le pays en ce moment. Est-ce que, malgré le climato-scepticisme que vous décriviez, il existe aujourd'hui des politiques d'adaptation en matière de politique publique ?
Oui, il y a un pays comme le Brésil, comme tous les pays d'ailleurs, sont censés faire un projet politique d'adaptation, hein, des lois d'adaptation. Ça fonctionne effectivement, mais on en est encore très très loin. Il y a des plans de reforestation, il y a des plans pour restaurer les écosystèmes abîmés. Il y a des plans d'agroforesterie, il y a un plan ABC, il y a beaucoup de choses qui se présentent, mais pour l'instant, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et je vous le dis, là, actuellement, il y a beaucoup de lois qui sont en discussion. On appelle ça le paquet de la destruction. Il y a actuellement, on a récupéré 26 lois qui sont directement néfastes pour l'environnement. C'est par exemple pour réduire les réserves légales en Amazonie. Pour l'instant, on veut les faire passer. Vous savez qu'en Amazonie, il faut garder 80% de la propriété en végétation originale. Et là, il est question de la faire passer à 50% dans les états d'Amapá, d'Amazonas et de Roraima. Hein, ça, c'est un nombre de kilomètres carrés absolument énorme. Il y a des régressions toujours pour tout. Bah, remarquez, ces régressions, on les observe partout. Hein, il suffit d'aller à Bruxelles, regardez ce qui se passe avec les attaques qui sont portées au pacte vert, au Green Deal actuellement, ou devant la grogne des agriculteurs. Il y a toujours biodiversité contre économie, c'est l'économie qui gagne.
Merci beaucoup Catherine Aubertin d'être venue nous parler de cette situation dramatique que traverse le Brésil, frappé d'inondations. Je rappelle que vous êtes économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour